Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors, promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest, l'émission qui nous fait voyager et voir le monde différemment. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la ville qui fait envie, celle où l'on s'amuse, celle où l'on profite, celle où l'on se surprend, bref, celle où l'on vit et l'on ne va pas s'amuser seul, puisque j'ai le plaisir d'être en compagnie de Philippe Boyer, évidemment. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna. Et si nous plaidions justement pour des villes désirables, des villes ludiques, des villes family friendly, comme on dit, des villes du dehors, des villes de la surprise, bref, d'une nouvelle vision de la ville, ce lieu dans lequel de plus en plus d'humains y travaillent, s'y logent, s'y distraient, voire s'y confinent. Et si nous adressions ici, dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Est, à l'Ouest, un plaidoyer pour une adaptation de la ville afin qu'elle soit plus sociale, plus solidaire, une sorte de reset urbain, comme sur les ordinateurs, en quelque sorte. Non, aucune campagne électorale en vue, mais juste le fait que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, celle des villes qui ne sont plus seulement prétendument intelligentes, mais qui seront plus humaines, plus équilibrées, plus inclusives, pour prendre un mot à la mode. Bref, la vie, la ville, mais en mieux. Ce sont les sujets dont nous allons parler pour cette nouvelle émission, avec une personnalité exceptionnelle, puisqu'elle est à la fois anthropologue, géographe et chercheuse au Centre de transport de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Tout ça, oui, tout ça réuni en une seule et même personne. C'est parti, droit devant. Larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, l'invité.
Bonjour Sonia Labanino, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Complètement à l'ouest. Alors, histoire de se mettre en jambes, j'ai coutume d'entamer cette émission avec un court extrait sonore et je me doute que le son qui va suivre ne vous laissera pas indifférente. Nous sommes en 1984 et en France, Bernard Pivot, qui à l'époque animait le magazine littéraire Apostrophe, était allé à la rencontre d'un grand monsieur, lui aussi anthropologue, ethnologue, Claude Lévi-Strauss. On écoute.
Claude Lévi-Strauss, ma première question est somme toute logique. Qu'est-ce que l'ethnologie ? À quoi servent les ethnologues ? Et au fond, à quoi a servi et à quoi sert Claude Lévi-Strauss ?
Oui, la dernière, je me chargerai pas de répondre. Mais à quoi sert l'ethnologie en général? Et vous savez, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Si on veut comprendre l'homme, on peut, à la manière du philosophe, se replier sur soi-même et essayer d'approfondir les données de la conscience. On peut essayer de regarder ce qui, dans les manifestations de la vie humaine, est le plus proche de nous, considérer notre histoire depuis ses origines gréco-romaines jusqu'au temps moderne, ou bien on peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger.
Faire en sorte que l'humain ne nous reste pas étranger, est-ce aussi votre conception que vous faites du métier d'anthropologue urbaine que vous êtes ?
Oui, je crois qu'il y a un vrai enjeu sur la question des dynamiques de proximité. C'est en effet un de mes dadas. Je travaille beaucoup sur cette question. Comment faire en sorte que les comportements par défaut, nos choix par défaut, l'architecture de nos choix, finalement, au quotidien, se passe au mieux, se déroule, je dirais, le plus intuitivement possible. Donc, pour le coup, en effet, il y a une vraie familiarité à créer avec la ville. La ville se doit de nous être familière. Si elle nous est familière, nous sommes bien, nous sommes heureux d'être là. Et je pense que ça, c'est un des vrais challenges. Je dirais que nous avons réussi si la ville nous donne envie d'être là.
Alors votre métier, justement, il est fait d'observation, d'études, d'analyses. Et j'imagine que le moment que nous vivons en cette période de Covid, pour l'anthropologue urbaine et géographe que vous êtes, doit vous inspirer bon nombre de réflexions sur la ville. Dit autrement, est-ce que le Covid va faire surgir une ville construite et pensée différemment ?
En tout cas, on voit qu'on la ressent différemment. Il y a des façons différentes d'appréhender la ville, d'y être. Donc oui, je pense que ça va automatiquement générer des nouvelles façons aussi de la penser, de la concevoir.
Comment, justement ?
Pour moi, le vrai défi, il a un rapport avec les interactions. C'est vraiment la question de la ville interactionnelle, de cette ville relationnelle dont je parle beaucoup dans cet ouvrage que je suis en train de décrire en ce moment avec mes coéquipiers. Et c'est justement suite au Covid, nous avons observé, chacun d'ailleurs dans des villes différentes finalement, hein, l'un de nous est à Liège, l'autre à Paris, l'autre en Suisse, et nous avons vu dans les trois pays à quel point la vraie question tournait autour des interactions, tournait autour de comment redonner de l'espace aux interactions, comment faire repartir les interactions, in fine, faire repartir la ville fonctionnelle. C'est pas le plus dur d'une certaine façon. Les gouvernements ont mis le paquet, plus ou moins. On a fait repartir les transports publics, les magasins. Mais de là à faire repartir les interactions, la façon dont les gens ont du lien entre eux, ça, c'était quand même la chose la plus subtile. Et on a bien vu que les espaces des interactions, c'était peut-être la chose la plus difficile à faire repartir.
Alors justement, vous sortez prochainement le livre au titre évocateur « La ville relationnelle ». Et on connaît la fameuse ville du quart d'heure. Et on recevait le mois dernier à ce même micro le professeur Carlos Moreno, qui en est l'auteur. Et qu'est-ce que c'est que pour vous cette ville relationnelle ?
C'est en fait une ville qui relève du bon sens d'une certaine manière. C'est la ville, je dirais, désirable par excellence. C'est la ville à laquelle on s'attache et qui est la ville qui nous permet de fabriquer des souvenirs. Je pense que c'est la ville vraiment dont on se souvient plus tard, dans longtemps, quand vous serez plus dans cette ville-là, quand vos enfants auront grandi, quand vous vous verrez pour, je sais pas, le 50e anniversaire de votre mariage. C'est de cette ville-là, la ville relationnelle, dont on va se souvenir. Et ça, je pense que c'est un aspect clé de la question, c'est quelle est cette ville épaisse, cette ville qui vous permet vraiment de vivre des expériences qui font que quand vous en souvenez des années plus tard, des décennies plus tard, ça vous reste ces moments clés qui sont des moments où vous avez vraiment l'impression d'avoir vécu. Et ces moments sont très souvent liés au fait que nous les avons vécus avec d'autres personnes. Et donc là, toute la question, c'est comment peut-on donner ces espaces-temps ? Parce qu'à la fin, c'est toujours une question qui va d'ailleurs au-delà des espaces. C'est toujours la question de quels sont les espaces-temps, au sens einsteinien du terme, hein, de se donner finalement les temps dans nos agendas, de se donner cette marge de manœuvre aussi, de prendre le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on ne prend malheureusement pas toujours assez le temps. Et je pense que le Covid nous a aussi beaucoup montré ça avec ces effets de confinement à la fois difficiles à vivre et à la fois aussi tout d'un coup un temps retrouvé, au sens presque proustien du terme, et tout d'un coup on se retrouvait là avec du temps sur les bras et tout d'un coup ça a permis de redécouvrir certaines choses dont on n'avait plus l'habitude, la resynchronisation des repas par exemple, qui était un mouvement qui était plutôt inversé déjà depuis des décennies. On n'avait plus forcément le temps de manger ensemble, le temps d'amener les enfants à l'école, le temps de jouer ensemble.
Mais ça, c'est de l'intimité. C'est plutôt du temps personnel. Et
ça relève de l'intime. Mais c'est de l'intime qui peut se jouer à l'extérieur. Et je pense que c'était tout, d'ailleurs toute la question difficile, d'ailleurs, hein, notamment en France, avec cette décision du premier kilomètre, bah, qui à la fois correspond quand même à ce quart d'heure que Carlos évoque souvent. Et je pense que c'est très bien d'avoir, je dirais, cette notion de se dire... On a bien vu, en tout cas, à quel point la qualité de ce premier kilomètre compte, puisque...
La proximité.
Là, c'est vraiment l'hyper-proximité, là, pour le coup, les dynamiques d'hyper-proximité. Après, c'est vrai que je défends aussi l'idée que ces dynamiques de proximité doivent toujours être en lien avec des logiques de reliance plus lointaines, parce qu'à l'échelle d'une métropole, à l'échelle d'une agglomération, nos bassins de vie sont des bassins de vie à géométrie variable, et toute la question, c'est comment peut-on faire des transitions douces, des transitions souples, des transitions agréables entre les dynamiques de proximité et les dynamiques de reliance à plus longue distance. Et pour moi, tout l'enjeu, c'est toujours de pouvoir littéralement retomber sur nos pieds, littéralement pouvoir de nouveau ralentir et pouvoir de nouveau être ancré dans cette proximité qui est quand même la plus chère à nos yeux et à notre vécu. Oui.
Alors depuis quelques années, on a, et vraiment singulièrement depuis ces derniers mois, on a vu apparaître un comment dire, un nouveau vocable pour qualifier l'urbanisme de cette ville qui s'adapte sans cesse. On parle d'urbanisme tactique et les pistes cyclables qui envahissent les villes en font partie. On parle aussi d'urbanisme transitoire. Est-ce qu'on va vers des villes qui devront se réinventer de plus en plus vite et donc adapter leur urbanisme? Et sait-on ce qu'il est le plus facile à faire pour justement faire en sorte que ces villes se transforment rapidement sous le coup de ces urbanismes-là?
Ce que j'aime beaucoup dans l'urbanisme tactique, c'est en effet la possibilité d'expérimenter, c'est-à-dire de voir en vrai comment vous vivez tel ou tel élément, telle ou telle chose. Je crois beaucoup à cette expérimentation-là. Ce que je n'aime pas dans l'urbanisme tactique, c'est justement le fait qu'on s'arrête à l'expérimentation. Et ce qui me paraît intéressant, c'est un modèle un peu comme le modèle montréalais qui en 3 ans construit en fait des programmes dans lesquels nous avançons avec l'urbanisme tactique la première année, ensuite on retient ce qui a bien marché, on enlève ce qui a moins bien marché, on teste encore des nouvelles recettes la deuxième année, et la troisième année on rentre dans le projet pérenne. Mais en fait tout ça fait partie du même projet et c'est le même budget, et vous avez un budget un petit peu plus large que vous auriez eu pour le projet pérenne normal. Et en même temps, ça permet de faire des vrais beaux projets qui durent dans le temps parce que vous les avez beaucoup, beaucoup testés, beaucoup essayés des recettes vraiment très concrètes. Parce que, évidemment, on peut donner notre avis, on peut dire ce qui serait bien en concertation, et les manières de faire de la concertation aujourd'hui ont beaucoup évolué, plutôt en bien. Je trouve ça plutôt agréable. On est plutôt dans des logiques de co-construction participative. Mais rien ne remplace le vrai vécu, le fait de pouvoir vraiment être assis sur cette assise ou essayer la bande ludique ou faire en sorte
ou essayer
de pouvoir,
les pistes cyclables.
Voilà, pouvoir, je dirais, être confronté au réel. Je pense que là derrière, il y a une question liée à l'expérimentation à échelle 1-1 qui me paraît, moi, très intéressante, et aussi le fait de pouvoir l'expérimenter dans le temps. Parce que très souvent, quand vous êtes là le premier week-end, vous dites à quoi ça sert, et puis au bout d'un été, vous avez compris à quoi ça sert. Mais il faut aussi se donner le temps de l'espace. Je reviens à cette notion d'espace-temps. Pour moi, c'est très important qu'on puisse se donner ce temps d'expérimenter, d'être vraiment dans la ville, dans son épaisseur, et de pouvoir y être avec plusieurs personnes différentes. Peut-être vous-même, vous apprécierez pas, mais votre enfant, il adore. Peut-être que vous-même, vous ne voyez pas vraiment bien l'intérêt, mais votre vieille mère, elle trouve ça fantastique. Et donc, en fait, il faut aussi pouvoir être là dans différentes situations, différentes temporalités,
différents publics,
et essayer de voir finalement dans quelle mesure nous-mêmes, nous sommes différents de nous-mêmes. Nous ne sommes jamais nous-mêmes. Enfin, j'entends, nous avons des...
C'est l'anthropologue qui parle.
Des moments. Nous avons des moments où nous adorons être là, et nous avons des moments où, ben voilà, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on n'est pas dans le mood, comme on dit. Donc, je pense que c'est aussi ça, la vraie ville, la vraie vie. C'est aussi de se donner des marges de manœuvre pour pouvoir être différents de nous-mêmes et être pas forcément toujours... régulier dans nos amours, si je peux dire, de la ville. Et donc, c'est assez important que la ville soit assez variée, qu'elle ait un spectre large, comme on dit, d'envie, de besoin, qu'elle puisse répondre de façon finalement assez appropriable, on va dire, où les gens peuvent eux-mêmes détourner de façon différente. Et ils peuvent l'utiliser d'une certaine façon le samedi matin et l'utiliser d'une autre façon le samedi après-midi et encore d'une autre façon le lundi soir ou le vendredi soir.
D'où la nécessité de prendre ce temps.
Absolument, oui. C'est vraiment nécessaire de pouvoir donner cette épaisseur, de pouvoir injecter du temps libre, du temps plein dans nos agendas pour qu'on puisse vraiment, profiter de tout ce que la ville a à nous offrir. Parce que c'est sympa, je dirais qu'aujourd'hui, le vrai point difficile, c'est la vraie pénurie, si je peux dire, c'est la pénurie de nos agendas, c'est la pénurie de nos heures. Parce que nous n'avons toujours que 24 heures et puis on a beau finalement avoir des villes qui sont super attrayante, qui nous offre beaucoup de possibilités. À la fin, si nous n'avons pas le temps de pouvoir utiliser ce qu'elle nous offre, vous ne voyez pas forcément l'avantage.
Merci Sonia pour ce début d'éclairage. On va évidemment poursuivre cette conversation. Mais avant, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause pour découvrir et évoquer les lieux à voir ou à visiter. C'est parti pour les carnets de voyage.
Complètement à l'ouest, carnet de voyage.
Et oui, parce que même sous contrainte sanitaire, la vie culturelle continue, et c'est tant mieux. On vous a quand même rédigé quelques pages de nos carnets de voyage avec ce qu'il y a à voir ou à visiter cet automne. Et on commence par le musée d'art moderne de Paris, qui met à l'honneur Sarah Moon, photographe de mode française, surtout connue pour ses héroïnes romantiques et ses publicités de parfums. Alors c'est aussi un pseudo, Sarah Moon, qui cache une artiste aussi mystérieuse que ses images dans ses clichés des femmes sans visage ou des silhouettes de d'eau qui nous échappe, très rarement filmée. Elle est discrète, timide et autodidacte. Elle disait « J'ai fait de la photo, mais je voulais faire du cinéma. J'ai été beaucoup à la Cinémathèque quand j'étais jeune et j'étais fascinée par les films muets. » Tout cela, ce sont des interviews qu'elle a récemment données à l'occasion de cette belle exposition qui se tient au Musée d'art moderne de Paris. Une exposition qui fait découvrir la singularité du travail de cet artiste qui oscille entre reflet et transparence, entre mirage et obscurité. Bref, qui fait marcher notre imagination. Sarah Moon, passé, présent, c'est du 18 septembre au 10 janvier 2021 au Musée d'art moderne de Paris, situé 11 avenue du Président Wilson, dans le 16e arrondissement.
Alors l'expo que je conseille, et c'est celle qui est intitulée Bio-inspirée et qui fera écho avec notre invité et qui se tient à la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette dans le 19e. Alors Bio-inspirée, qu'est-ce que c'est ? C'est une exposition qui montre combien il est urgent de s'inspirer de la nature pour construire, pour bâtir, bref, pour améliorer l'existence. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme en tant que démarche scientifique qui s'inspire de la nature pour imaginer un monde plus durable et harmonieux. L'industrie, la construction, les transports se sont déjà largement inspirés de la nature, à l'image par exemple des ailes des avions qui reprennent beaucoup de particularités des ailes des oiseaux, ou encore le nez allongé du fameux train à grande vitesse japonais Shinkansen au Japon qui s'inspire de l'aérodynamisme du bec du Martin Pêcheur. Vous l'avez compris, cette exposition incite à réfléchir non plus ce que nous pouvons extraire de notre environnement, mais sur ce que nous pouvons en apprendre. C'est vraiment un autre regard sur le vivant. Bio-inspiré, c'est à la Cité des sciences dans le 19e arrondissement. Plus d'infos sur cité-sciences.fr.
Et puis Philippe, Sonia, j'espère que vous avez pris vos maillots puisqu'on va à la piscine et plus exactement nous partons à Roubaix dans les Hauts-de-France, c'est tout près de Lille. Alors merci de jeter à la poubelle les vieux clichés, hein, réduisant la ville des Hauts-de-France à une cité pauvre, désindustrialisée et insalubre. Tout ça, c'est du passé. Roubaix, ville autoproclamée reine du zéro déchet, a entamé une mue ancrée dans sa chair, dans ses briques rouges emblématiques des anciennes friches textiles. Et puis dans le centre-ville, il y a ce formidable musée d'art et d'industrie, un joyau niché dans une ancienne piscine art déco. C'est vraiment un endroit à aller voir, d'autant qu'il y a en permanence des expositions de sculptures, de céramiques et de peintures. Toutes les infos sur roubaix-lapiscine.com.
Allez, dernière news de ce carnet de voyage, il faut aller au Quai Branly pour voir cette exposition déroutante intitulée « À toi appartient le regard » et trois petits points, « La liaison infinie entre les choses », un titre énigmatique. Mais l'expo vaut vraiment le détour. Il faut y aller ne serait-ce que pour cette introduction vertigineuse dans un long ruban d'images qui serpente sur le mur. Un même visage scrute le spectateur 666 fois le même et 666 fois différent. Impossible d'échapper à ce regard intense. Mais c'est aussi une exposition sur les questions d'identité et de mémoire, sujet politique s'il en est en ce moment. Comme l'indique le titre énigmatique de cette exposition passionnante, je le répète, je ne m'en lasse pas, à toi appartient le regard et, trois petits points, la liaison infinie entre les choses. Les photographies exposées invitent à réfléchir sur l'acte même de regarder. C'est donc, je ne répéterai pas une autre fois le titre de l'expo, hein, c'est donc au Musée du Quai Branly, Paris 7e, et c'est jusqu'au 1er novembre, quaibranly.fr, tout attaché pour avoir plus d'infos.
Merci Philippe, allez, on retourne à notre thème du jour.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Il y a quelques semaines, Sonia, vous avez fait l'objet d'un long article dans Le Monde sur la place du vélo dans la ville, on en parlait avant Carnet de Voyage. Et vous disiez, je vous cite, « Pour que le vélo soit une pratique démocratique, il faut développer une autre philosophie du partage de l'espace. » Qu'est-ce que c'est que cette autre philosophie du partage de l'espace et est-ce que ce sont seulement des coronapistes ?
Alors, surtout pas, j'aurais tendance à dire, je crois que ce qui est vraiment intéressant dans cette question du partage, c'est comment les espaces, et surtout les espaces-temps que nous venons d'évoquer précédemment, peuvent vraiment favoriser une biodiversité des publics. Et pour moi, c'est ça l'indicateur principal, finalement, qui m'indique que cet espace fonctionne bien, que nous sommes dans un espace vraiment vivant. C'est quand j'y vois toutes sortes de personnes, à toutes sortes d'âges, toutes sortes de backgrounds, d'autres... finalement, d'autres vécus, on va dire. Et ça, c'est ça la vraie démocratie, d'une certaine manière. C'est d'avoir vraiment, des personnes à dans l'éventail, finalement, d'expériences, l'éventail de vécus est très différent. Et c'est là aussi que la ville est à son meilleur, si j'aurais tendance à vous dire. C'est quand on est dans ce melting pot, d'une certaine manière, dans cette grande ambiance dans laquelle nous sommes avec différentes soi. Parce qu'être dans l'entre-soi, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'être dans le différent de soi. Et donc, ce qui, moi, m'intéresse, c'est comment peut-on faire en sorte que le frottement d'être dans différent de soi puisse être un frottement bien vécu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du lisse, hein, c'est pas de la ville lisse au sens d'avoir des personnes qui sont comme vous et tout va bien. Mais c'est justement dans cette différence de trouver assez d'élasticité, d'une certaine façon, pour pouvoir mélanger et que ce mélange vous rend plus fort, vous rend plus intéressant, vous rend plus intéressé par l'autre et vous permettre justement d'explorer peut-être des facettes de nous-mêmes qui sont des facettes qu'on n'explore pas nous-mêmes habituellement. Et donc pour moi, c'est cette biodiversité que je cherche à
Et le vélo favorise cette créer. Biodiversité, accélère, j'allais dire, cette biodiversité de la ville avec les frottements que vous évoquez, les personnalités différentes soudainement qui enfourchent leur vélo.
Alors le vélo permet, comme tous les modes plein air, si je peux dire, par opposition à des modes à coque, si je peux dire aussi, on est dans quelque chose qui permet en effet d'avoir un petit peu plus la possibilité de faire des pas de côté, de prendre un peu plus de temps, de ralentir, d'accélérer, mais aussi surtout, je dirais, de ralentir. Et c'est toute la question pour moi, c'est à quoi servent, je dirais, les infrastructures vélo. Si c'est pour aller encore plus vite, encore plus loin, et qu'on reste dans le paradigme de la vitesse tel que le 20e siècle nous l'a appris, je pense pas qu'on aura beaucoup sorti finalement d'une logique automobilistique, hein, c'est-à-dire qu'on reste dans une logique d'un mode de transport privé qui vous permet d'aller vite. Je pense que c'est pas spécialement ça qui serait le plus intéressant. Pour moi, la vraie culture du vélo, elle vient quand un enfant de 3 ans peut faire du vélo en ville, et donc par définition, il ira plutôt lentement. Et la question, c'est plutôt, est-ce qu'on peut faire en sorte que des familles entières puissent faire du vélo, qu'il y ait des vélos cargo, que des seniors puissent en faire, qu'on puisse le faire en groupe, qu'on puisse le faire entre amis, que les ados puissent en faire à 10 ensemble sur la piste. Vous voyez bien que déjà, la Corona piste ne répond pas à ça. Donc pour moi, c'est la vraie question pour moi, c'est plutôt comment conquérir le réseau, c'est-à-dire que la plupart des villes ont un patrimoine, un capital de réseau vierre qui tourne autour de 2000, 3000 km pour des villes moyennes. Peut-être une ville comme Paris aurait plutôt 4000, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup de milliers de kilomètres. Et toute la question pour moi, c'est plutôt que peut-on faire avec ces milliers de kilomètres. J'apprécie beaucoup la vision de Salvador Rueda à Barcelone sur la question des supermanzanas, les cœurs de quartier estiment qu'il est convenable, intéressant, libérer les cœurs de quartier pour la fonction civique et pas uniquement la fonction circulatoire. Et quand on revient à la question du partage, pour moi, c'est aussi ça le partage. C'est partager, mais c'est pas partager uniquement pour mettre un pied devant l'autre, c'est pas partager uniquement pour rouler avec la roue du vélo ou rouler avec la roue du patin ou la roue de la trottinette ou la roue de la voiture. Rouler, c'est une chose, mais se parler, c'est mieux. Et je pense que là-dessus, c'est vraiment la question de comment peut-on faire pour avoir cette ville du blabla, si je peux dire, cette ville vraiment qui est finalement la ville, la vraie ville, quoi, la ville qu'on souhaite.
Alors la ville, c'est la mobilité, mais c'est aussi l'habitat. Et vous dites souvent que l'espérance de vie qui continue à s'allonger va nous obliger à changer quelque part de logiciel en concevant des logements différents. Et vous dites aussi, et en étant un peu provocatrice peut-être, que l'habitat du 21e siècle sera moins celui de la propriété individuelle que du partage locatif collectif. Et vous parlez notamment de la maison sur abonnement. Quelles doivent être, selon vous, ces nouvelles façons d'habiter qui, pour bon nombre d'entre elles, restent encore à inventer ?
Oui, en effet, je pense que c'est vraiment une question générationnelle. Il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est à quel point nous sommes dans une logique dans laquelle nous allons avoir une grande transition démographique, hein, on l'oublie parfois, mais liée à la disparition progressive des baby-boomers, à l'arrivée progressive qui est déjà là, hein, des autres générations. On parle beaucoup des millennials, mais derrière les millennials sont déjà nés aujourd'hui, hein, les générations Z, les générations... iGen même, enfin on a déjà fait le tour de l'alphabet, hein. on est reparti, et donc la question c'est plutôt, quand on a disons comme ça, comme aujourd'hui déjà, hein, 4-5 générations en attente, si je peux dire, toute la question pour moi va être cette espèce d'explosion qui ressemblera un peu à un feu d'artifice, tout d'un coup nous aurons plein de désirs d'habiter qui sont nouveaux, qui sont liés à l'arrivée de ces nouvelles générations sur le marché immobilier, si je peux dire, et au fait qu'ils auront des nouveaux désirs d'habiter, des nouvelles attentes sur l'habiter. Et une hypermobilité beaucoup plus forte que les générations précédentes encore. Ça, c'est une tendance lourde qui est là déjà depuis 1950. Donc, je dirais que c'est pas spécialement nouveau. Mais ce qui est intéressant, et notamment avec ce Covid, mais qui ne fait que finalement accentuer des tendances qui étaient déjà là, qui sont des tendances de, peut-être plus de nature, peut-être plus d'espace et de temps pour le corps en mouvement, plus d'espace aussi pour renouer avec une vie de famille, comme je disais précédemment, plus concentrée. Donc, on voit là peut-être, je dirais, des volontés d'expérimenter des choses différentes. Et puis, en effet, le fait de pouvoir vivre grosso modo un siècle vous donne aussi une certaine liberté de pouvoir expérimenter, si pas à votre première vie, si pas à votre premier mariage, ben, probablement à la deuxième relation. Voilà, troisième grande relation, vous aurez tendance à vouloir, dans votre prochain cycle de vie, expérimenter des choses que vous n'avez pas encore expérimentées dans la vie précédente. Et le fait qu'on ait comme ça plusieurs vies, qui est quand même une chance d'une certaine manière, fait que nous aurons plus la possibilité d'expérimenter aussi plusieurs styles de maison, plusieurs styles de manière d'habiter. Ce qui, du coup, va en effet permettre, contrairement à une époque où nous étions beaucoup sur l'achat d'une vie, être plus dans une logique où, voilà, une fois j'expérimente peut-être quelque chose de plus urbain, une fois j'expérimente peut-être quelque chose de plus périurbain, là, la villa, le chien, les enfants, le barbecue, une fois j'expérimente une maison qui est plus en lien avec la nature, peut-être en montagne, peut-être au bord de la mer. Disons, et contrairement à une époque où nous ne faisions ça que sur 2-3 fois, je pense qu'aujourd'hui, nous serions dans la possibilité, puisque les cycles de vie augmentent chaque fois et que nous sommes déjà à 5, 6, 8 cycles de vie aujourd'hui pour certaines personnes, ben nous serions dans la possibilité finalement d'expérimenter 6, 7, 8 modes de vie différents sur des durées d'environ 10 ans, 15 ans.
Il va falloir inventer de nouveaux modèles.
Oui, c'est ça. Je pense qu'en effet, il y aura beaucoup plus d'accélération et à la fois aussi, je dirais, de diversité. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de vendre une seule fois une maison à quelqu'un, il serait plus intéressant de vendre des séquences d'habiter qui seraient, elles, très différentes et à la fois dans le temps et aussi... Pendant la même période, vous pourriez aussi imaginer, ce qui est déjà le cas beaucoup en Suisse ou dans les pays nordiques, la multirésidentialité, un habitat qui se multiplie finalement. Vous passez une partie de l'année quelque part, une partie de l'année ailleurs, ou peut-être que c'est sur le mois. Donc en fait, c'est toute la question des temps plus que des espaces, en fait. Hein. Et quand on arrive à donner aux gens des possibilités de gérer leur temps autrement, alors... Par définition, le toit sur leur tête va aussi se multiplier et va aussi être différent.
C'est passionnant, Johanna.
C'est passionnant. On va faire une toute petite pause musicale avant, évidemment, de poursuivre cette discussion avec vous, Sonia. On va faire une petite pause, pardon, avec un morceau musical, honneur à nos amis suisses, avec un enfant du pays. Sonia, est-ce que vous aussi, vous aimez déjeuner en paix?
Oui, plutôt.
Vous voyez où
je vois,
on y
je
va.
Vois.
Vous voyez Echer, où on ouais. va. Exactement. Vous avez reconnu votre compatriote Stéphane Echer. Déjeuner en paix. On l'écoute, on revient juste après.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix.
déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
De retour en studio avec Sonia Lavadino qui est notre invitée aujourd'hui et avec Philippe Boyer.
Alors pendant le confinement, on a surtout connu la ville du dedans et la question qu'on se pose tous, c'est avec finalement le réchauffement climatique, on va tous et de plus en plus avoir la tentation de connaître et d'être à l'extérieur. Puisque dans nos logements, par exemple, on risque d'avoir très rapidement trop chaud. Et comment est-ce qu'on doit construire de plus en plus la ville, les logements, nos lieux pour travailler, pour précisément trouver ce nouvel équilibre entre ceux dedans et ceux dehors, dans un moment où on voit bien que le réchauffement climatique est vraiment désormais plus que jamais une réalité.
Si je voulais être très, très, très radicale, j'aurais tendance à dire que le vrai bonheur serait que la gestion de la température soit régulée avec des wearables, c'est-à-dire sur notre propre corps, qu'on arrive vraiment à trouver
des habits
qui nous permettraient, un peu comme Spock, vous voyez, avoir quelque chose qui nous permet presque de pouvoir mettre un pied sur cette exoplanète qui serait la nôtre et de pouvoir simplement vivre avec la situation du moment, en termes de température, en termes de météo, chaud, froid. Et il y a des recherches, et vous parliez précédemment de Roubaix, c'est un musée que j'adore, le musée du futur des textiles. Je vous conseille d'ailleurs, je rajoute à vos carnets de voyage parce que c'est fascinant comme endroit. Et il y a entre autres là des textiles qui poussent des poils quand il fait froid, qui deviennent imperméables quand il pleut, enfin très intelligent dans le sens de répondre finalement à la situation du moment. Et ça, je pense que ce serait finalement le rêve pour nous tous. Hein. Et c'est vrai que après avoir un toit sur la tête, c'est évidemment quelque chose qui peut être très confortable. Et quand on est à plusieurs, c'est sûr que c'est très confortable. Je pense que là derrière, la vraie question pour moi, c'est comment peut-on, avec finalement peu de mètres carrés, parce que c'est la question de cette sobriété heureuse dont on parle de plus en plus, et je pense que c'est une vraie question pour moi, qui est comment peut-on faire pour diminuer la consommation des mètres carrés qui ne cesse pas d'augmenter, comme vous le savez, par tête, par personne, et est-ce qu'on peut, avec notamment cette notion que je développe de mètres carrés heureux, être plus dans une logique dans laquelle nous, au lieu de vendre des mètres carrés totaux, nous vendrions des mètres carrés heureux, et que ces mètres carrés heureux, ça de mètre carré, un temps son usage, un temps son, on va dire, en plaisir d'être là, en bonheur d'être ensemble, et qu'on puisse...
Le prix est varié selon le bonheur.
Et je dirais en tout cas que vous auriez peut-être pas besoin d'avoir une maison qui ferait 100 mètres carrés ou 150 mètres carrés, mais plutôt d'avoir, admettons, 30 mètres carrés ou 50 mètres carrés, mais vraiment heureux. Et là, pour le coup, je pense qu'on serait dans quelque chose qui serait à la fois plus sobre et à la fois qui répondrait mieux à la demande. C'est-à-dire qu'on serait plus sûr de quelque part utiliser les mètres carrés à bon escient. À bon escient et de les utiliser d'une façon qui, pour nous-mêmes, nous remplit plus de joie d'être
là. Donc des mètres carrés heureux, des vêtements de plus en plus intelligents et connectés, c'est une des voies donc, pour se conforter par rapport à cette vague climatique de chaleur abominable dans les villes.
Je pense que quand même, une des vraies questions reste aussi celle de la ville du dehors, c'est-à-dire de pouvoir profiter des premiers centaines de mètres autour du logement de telle sorte que nous puissions avoir notamment des îlots de fraîcheur qui ne soient pas uniquement conçus de façon fonctionnelle, mais qui soient, alors là pour le coup, pour moi le vrai challenge, c'est qu'ils soient soit conçu de façon relationnelle et qui puisse servir à conforter les liens de voisinage, qui puisse servir à conforter les liens intergénérationnels.
Toujours le lien humain.
Toujours le lien humain d'abord, et qu'on n'oublie pas ça, parce qu'aujourd'hui c'est une question qui est traitée de façon extrêmement technique. Quand je vois passer les marchés, les appels d'offres, je vois bien que la question elle est posée uniquement du point de vue de la régulation de la température, de l'eau, etc. C'est sûr, c'est une vraie question et il faut que l'écosystème fonctionne. Mais pour moi, comme je disais précédemment, la vraie biodiversité à chercher, c'est celle des publics.
Alors, un livre est sorti il y a quelques mois et qui fait l'éloge. On a beaucoup parlé de la mobilité, on a parlé de l'habitat à l'instant. Et ce livre fait l'éloge de la marche. C'est d'ailleurs son titre. Et quelle doit être la place du piéton dans la ville? Est-ce que cette ville post-Covid que l'on connaît, que l'on vit, que l'on essaie de définir, quelle est la place du piéton dans cette ville-là?
Je pense que malheureusement, piéton est un terme qui est trop technique. Moi, j'ai tendance à parler plus de bipède, d'humain, parce qu'à la fin, c'est notre état naturel d'être piéton, en fait. Nous sommes toujours sur nos deux pieds. Quand nous tombons du lit le matin, nous sommes sur nos deux pieds. Nous ne sommes pas encore dans la voiture, ni dans le métro, ni sur notre vélo. Enfin, généralement, quoi. C'est ce qu'il faut espérer.
Ce serait
tragique, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord?
Et donc,
ce moment sur nos deux pieds, qui est un vrai bonheur, d'être bipède comme ça, d'être dans cette verticalité, dans ce rapport à la ville, je pense qu'il est intéressant de pouvoir le promouvoir d'une certaine façon, je dirais au-delà de la porte de votre immeuble. Plus longtemps vous arriveriez à garder les gens sur leurs deux pieds, et plus longtemps du coup ils seraient en contact avec leurs voisins, leurs boulangères, les personnes finalement qui sont dans l'environnement proche, et plus longtemps nous passerions aussi avec en famille sur nos deux pieds. Va bien, généralement, ça nous relaxe. C'est quelque chose qui nous va bien. C'est aussi une vitesse qui nous va bien. Cette vitesse de 5 km/h, 6 km/h, parfois 2 km/h, si on est une petite mamie ou si on regarde les vitrines. Et tout ça, c'est, une vitesse naturelle. Et je pense que quand on a la possibilité de toujours retomber sur nos deux pieds, je ne dis pas qu'on peut toujours y être dans la journée. Bien sûr, il y a des moments où vous avez besoin d'aller vite. Et c'est très bien aussi de pouvoir aller vite. Je suis quelqu'un qui aime bien aussi la vitesse. C'est pas la question. Mais ce qui est important, c'est pas tant le fait d'aller vite ou lentement, mais c'est le fait de pouvoir transitionner facilement. Vous devez pouvoir à chaque moment ralentir, voire vous arrêter et être simplement là. Et je pense d'ailleurs que la recette parisienne pour ça est connue, elle est bonne. C'est chaque fois que vous avez un arrêt de métro, vous avez aussi un bistrot. Chaque fois que vous avez un bistrot, vous avez un arrêt de métro. Donc c'est parfait. Je veux dire, si vous voulez aller vite, prenez le métro. L'équilibre métro-bistrot, c'est génial. C'est une recette qui fait mouche, si je peux dire. Et donc toute la question pour moi, c'est comment peut-on faire pour entre mobilité, qui reste quand même une demande dérivée. Je veux dire, à la base, les gens, ils bougent pas pour bouger. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont faire avec le fait de bouger. Et donc, pour moi, la vraie question, c'est comment donner des raisons d'être là? Comment donner aux gens la possibilité de s'arrêter? Parce que c'est ça qu'ils veulent, en fait. C'est pas bouger. Ils veulent s'arrêter. Ils veulent pouvoir passer du temps ensemble. Et donc, si vous leur permettez finalement, chaque fois qu'ils bougent, de s'arrêter, là, je pense qu'on est dans la vraie ville.
Johanna, je ne sais pas vous, mais si Sonia se présente une élection locale, je vote pour elle, ça c'est sûr.
Je confirme.
Et puis deuxième vœu, il va falloir absolument allonger la durée de Complètement à l'Ouest. Ce n'est pas possible de continuer seulement sur cette durée avec des invités passionnantes comme Sonia. Merci Sonia, merci infiniment d'avoir été notre boussole pour cette émission. Je rappelle que vous allez sous peu publier un livre qui s'annonce passionnant sur la ville relationnelle. On guettera sa parution. Merci Johanna.
Merci
et
à vous, mon cher
toute
Philippe.
L'équipe Merci de Radio Sonia. Imo qui a œuvré à la préparation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, je vous rappelle que cette émission peut être réécoutée en podcast sur le site de Radio Imo et sur tous les players, comme on dit. D'ici là, bon vent, cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.